Amis de Radio Occitanie et de la poésie, bonjour, les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Le poème n'est pas une réponse à une interrogation de l'homme ou du monde. Il ne fait que creuser, il ne fait qu'aggraver le questionnement, nous dit Laurent Gaspard. Et puis il ajoute, ne cherche pas l'absolu, il est en toi, comme un ravin de sécheresse qui te perdra. Toute parole qui retourne la terre porte sa soif, amour et doute, herbe amère et fruits, le poule accordé et défait. Le texte poétique, nous dit Laurent Gaspard, le texte poétique est le texte de la vie, travaillé par le rythme des éléments, construit, érodé par tout ce qui est, fragmentaire, plein de lacunes, laissant apparaître dans les failles des signes plus anciens, trame d'ardeur et de circulation, chacun pour y lire autre chose et aussi la même chose. Voilà, c'est ce que nous n'arrêtons pas, donc, de révéler un petit peu, ici à Radio Occitanie, dans cette émission « Les poètes », donc, en disant que, dans cette circulation de la parole, qui est la parole du poème, chacun va pouvoir y lire autre chose et aussi la même chose. Alors aujourd'hui, nous allons lire autre chose, mais aussi la même chose, de poème de Annie Brier. Annie Brier, qui fait paraître aux éditions Encre Vive, ces éditions Encre Vive, créées par Michel Cozem et en 1960, et qui continue sous la direction maintenant de Éric Chassefière, donc qui a repris le flambeau et qui permettent donc à ces éditions et à cette revue Encre Vive de continuer sa vie depuis 1960. Bon. Et dans le numéro 534, c'était au mois d'avril de cette année, le 534e numéro d'Encre Vive était donc consacré à Annie Brier. Annie Brier qui était la compagne de Michel Cozem et qui publie là Encre Vive, Crépuscule de la joie. Crépuscule de la joie, avec un exergue sur la page de couverture, très belle couverture d'ailleurs, avec un très beau graphisme, un haïku de Michel Cozem, que je vous lis tout de suite. Le vent et le nuage, pour toujours, se partagent le monde. Voilà, trois vers. Le vent et le nuage, pour toujours, se partagent le monde. Alors, Annie Brier, elle va continuer cette œuvre de célébration, qui était l'œuvre de Michel Cozem et qu'ils avaient en commun, même regard sur le monde, le même amour du paysage, le même amour, par exemple, du Lot, cette terre du Lot qu'ils aimaient à la passion l'un et l'autre. Annie Brier, elle a vécu son enfance et son adolescence en Champagne troyenne. Elle a été nommée professeure de lettres près de Toulouse et elle est entrée aussi en poésie auprès de Michel Cozem, bien sûr, et elle est devenue membre très vite donc du comité de rédaction de la revue Encre Vive. Et dès 1985, elle découvre le Lot, où Michel Cozem avait une résidence secondaire, et elle se passionne pour ce terroir aux paysages très divers qui a su préserver sa profonde authenticité. Elle emprunte en solitaire ses chemins innombrables pour mieux apprécier leur poésie et les décrit dans un livre qui s'appelle « Désir de Lot », puis « Un paradis de pierre », un autre donc de ses livres, c'est le titre, hein, « Un paradis de pierre ». Elle va ensuite à la rencontre des artistes, des peintres, des sculpteurs, pour les connaître et dépeindre leurs œuvres. Enfin, vers ceux qui ont écrit le Lot avant elle, les écrivains. Et c'est enfin définitivement séduite par ce pays dont, depuis 2021, elle vit maintenant toute l'année dans cette magnifique terre du Lot, du département du Lot, près de Figeac. Voilà, je suis un peu ému en disant ça parce que samedi, je serai à Figeac. Nous allons revenir aussi dans cette terre que j'adore, qui est la terre aussi de Gilles Lade. Nous allons revenir dans le pays de Gilles Lade à Figeac. Crépuscule de la joie d'enivrié. Le jour d'hiver se lève. Les lueurs roses du soleil lissent le ciel derrière les troncs noirs du petit bois de chêne. Une bande gris-bleu au-dessus. Ce rose et ce bleu, couleur de chambre d'enfant, pour une vie qui s'éveille. Goûter l'éclosion du jour, les prodiges du soleil levant. À l'intérieur, le feu dans l'insert. Dehors commence la grande cérémonie de l'univers. À l'horizon, une longue ligne rouge étincelante. Le soleil se prépare très lentement à monter derrière la colline. Le bois crépite dans la cheminée. Les flammes dansent. Dehors, monte l'orage de feu dans les branches des chênes. Voilà. Donc une poésie de célébration, hein, célébration de cette terre. Cette terre qui, le simple fait d'être là, d'être dans cette terre, d'être au milieu, d'ouvrir les yeux sur cette terre, provoque immédiatement ce sentiment d'être au monde et de faire corps avec ce monde, d'être en osmose complète avec ce monde et d'aimer ce monde. Matin du monde, baigné de poésie par les oiseaux, leur écriture dans le ciel, leur silence l'hiver, splendeur de l'aube, chaque jour renouvelé, éphémère, éternel. Les flammes dans l'âtre, pareilles à des cheveux fous dans le vent, révèlent le bois. Elles puisent en lui leur force de vie, elles sont la vie, le mouvement de la vie. Les braises, au-dessous, rougeoient, couleur de soleil levant, brasier du cœur. Au bord de l'été, ta mort, ma mort. Mon cœur noyé dans l'eau noire de la nuit, sauvé à l'aurore griffée de sang. Tes traces partout, ton corps, debout devant mes yeux, à chaque instant, l'inimaginable absence. C'est bien entendu de Michel Cozem dont il s'agit. Michel Cozem, donc, qui habitait ce petit hameau du Lot dans les quatre dernières années de sa vie. Et on imagine Annie, donc, se retrouvant, comme elle dit, au bord de l'été, confrontée à cette inimaginable absence. Je dois dire que Michel Cozem, dans cette maison de Iceps, donc près de Figeac, sur les hauteurs de Figeac, dans ce Lot profond, Michel Cozem avait trouvé là tout à fait ce qu'il a recherché en fait toute sa vie. Un paysage qui lui ressemble, une tranquillité, une sérénité absolue. Des oiseaux, là j'ai vu le fauteuil où il était pour regarder les oiseaux, les arbres. et imaginer à partir de là la beauté, l'immensité du monde, la splendeur du monde, et pouvoir écrire sur cette splendeur du monde. La lumière trouvée en toi, son origine, et tu brillais. La terre, tu l'inventais, dans le silence de ton bureau, une flamme prodigieuse s'élançait de ton cœur vers le blé du monde, la musique de l'espace. Tu bâtissais un royaume, avec tes mots et ceux des autres. Tu écrivais des chants de pur silence, ta joie de vivre avec nos deux souffles dans une même demeure. Alors c'est un poème d'Henri Brier qui résume bien la vie qu'avaient ces deux artistes ensemble. C'est quand même extraordinaire. Deux artistes qui vivent ensemble dans cette espèce de plénitude qu'ils avaient trouvée l'un et l'autre. Et ensemble, ils vivaient cette plénitude. Il y a quelque chose d'un peu miraculeux là-dedans, dont on voit maintenant toute la difficulté du monde, toute la difficulté des relations humaines, etc., arriver à ce que ces deux artistes se rejoignent totalement, donc dans cette lumière du lot, hein, la lumière trouvée en toi son origine et tu brillais, ce qu'elle dit. Et ta joie de vivre avec nos deux souffles, dit-elle, dans une même demeure. Et elle dit aussi, tu bâtissais un royaume avec tes mots et ceux des autres. Donc il écrivait, il avait toute son œuvre poétique, qui est une œuvre importante et une œuvre de célébration, hein, essentiellement, hein, où il était imprégné des lieux, hein, mais, Michel, des lieux, c'est-à-dire de la vie des hommes, tout simplement. Hein. Qu'est-ce que c'est que les lieux, si ce n'est ce qu'ils rencontrent, bien entendu, de la vie des hommes qui ont vécu avant, qui vivent maintenant et qui vivront plus tard, toujours dans ce lieu, qui se transformera aussi avec la transformation des hommes. Et il dit, un royaume avec tes mots et ceux des autres, et ceux des autres. Il a toujours associé donc sa création à la création des autres, dont il était excessivement attentif, attentionné, donc en étant cet éditeur bienveillant, mais qui était toujours quand même sur le pont, hein. il n'a pas arrêté de faire valoir les mots des autres. C'est très rare ça, et des poètes qui sont aussi là, attentifs à faire valoir les mots des autres. Ta mort, ma mort, mes larmes cristallines en plein été, sur des grappes de fruits, sur mon jardin de fleurs, mes sanglots en cascade. Que peuvent les mots sur tant d'abîmes? Rechercher à nouveau la pierre, immuable, silencieuse, la seule à posséder la parole d'origine, la seule à m'apaiser. Ah. Donc on voit que Henri Brier, la mort de Michel, c'est aussi sa mort. Et bien entendu qu'il y a quelque chose en elle qui va mourir avec Michel, mais de ses larmes vont rejaillir cette volonté de rechercher à nouveau, dit-elle, rechercher à nouveau la pierre immeuble silencieuse. Voilà. La seule à posséder la parole d'origine. Donc cette parole d'origine qui va être la seule capable d'apaiser cette douleur, et peut-être de mettre un terme peut-être provisoire à une mort qui était entamée par la mort de Michel Cozem. Henri Brier, donc Crépuscule de la joie. Vous voyez, dans cet oxymore, Crépuscule de la joie, il y a tout. Avant, c'était avant. Je partais souvent marcher contre les falaises hautes, si hautes qu'elles touchent les nuages. Là-bas, tout me parle avec la langue du vent. Je prends forme, je prends racine, à mon tour comme elles. je deviens un buisson de mémoire dans le frémissement du silence. À mon retour, tu lisais craintif la couleur de mes yeux. Tu craignais mon périple intérieur. Tu n'aimais que la paix, la joie, les sourires, la simplicité des choses, la pierre aussi. Tu aimais trouver le quartz des pierres dans ta maison d'écriture, comme un diamant dans ton sol, une étoile dans ton ciel. Nous rapportions des pierres de nos voyages, noires, rouges, une écriture savante de la terre, des sculptures, pierres des volcans, de Tenerife, de Lanzarote, de Fuerteventura. Je laisse ces trésors sur le rebord des fenêtres de ton bureau, toucher la pierre, la porter, c'est tenir l'éternité dans ses paumes durant notre vie éphémère. Alors là, je retrouve quand elle parle de ces pierres des volcans de Tenerife, de Lanzarote, de Fuerteventura, je retrouve effectivement ce que me disait Michel quand il partait pour les Canaries. Ils étaient heureux là d'aller aux Canaries. Je l'ai suivi d'ailleurs. J'ai fait comme lui quelques années aussi, où nous allions aussi à Tenerife, à Playa del América, etc. J'ai beaucoup aimé aussi les Canaries, et il rapportait ces pierres des volcans, les plages par exemple, le sable des plages, c'est des pierres volcaniques dont c'est noir. Et je me souviens très bien donc de cette période où ils allaient aux Canaries. Voilà, toucher la pierre, la porter, c'est tenir l'éternité dans ses paumes durant notre vie éphémère. Je ramassais aussi au bord de la mer les nombreux galets en forme de cœur pour ce grand mystère de la nature qui préside à la transformation de la pierre par la mer en forme humaine. Je les conserve comme une collection de pierres précieuses gravées désormais de nos souvenirs. Des dizaines de cœurs. L'une d'elles, il y a peu, m'a échappé. C'est brisé, au beau milieu. Un cœur noir, une pierre de lave, polie par la mer pendant des milliers d'années. Qui n'a pas trouvé dans une plage de galets un galet justement, enfin un petit ou un caillou tout simplement, qui est la forme d'un cœur qui a été poli par les eaux. Ton cœur, une nouvelle fois fracassé, mon cœur, à nouveau en souffrance. Les doigts de ta main, les paumes de tes mains, qui ont touché tant de pierres, tant de livres, écrit tant de pages, devenues cendres. Dans l'âtre, les cendres du bois, douces, comme un ventre d'oiseau, irréparable blessure. Oui, elle dit là que ses mains, les paumes de tes mains qui ont touché tant de pierres, tant de livres, écrit tant de pages. Effectivement, Michel Cozem a écrit beaucoup, des romans pour la jeunesse et des livres de poèmes, beaucoup, toute sa vie, une vie occupée à ça, à écrire, à lire. A animé aussi pendant longtemps des ateliers d'écriture. Il a été un des grands précurseurs des ateliers d'écriture, Michel Cozem. L'immensité était en toi. tu consultais chaque jour un atlas pour le seul plaisir. Tu avais besoin de voir et de revoir l'ampleur de notre planète, d'apprendre encore et toujours, d'écouter les nouvelles du monde entier. Un besoin d'espace, d'oiseaux migrateurs. Sans bruit, tu as écrit l'impossible et le possible dans des œuvres nombreuses, multiples. Mille voix étaient en toi, celles des poètes, celles des romanciers, celles des conteurs, et tu n'as cessé de voguer avec tes rêves, poussière d'oiseaux. Un bel hommage qu'elle lui rend, mais ce qu'elle dit est très précis. L'histoire de l'atlas, de consulter chaque jour un atlas, je sais que mon grand-père, par exemple, faisait pareil. Il n'y avait pas un jour où il ouvrait deux livres, tous les jours, c'était l'atlas. Et puis c'était le dictionnaire. Voilà, il lisait fragments du dictionnaire et fragments de l'atlas pour penser justement à cette immensité du monde et pouvoir s'approprier un peu cette immensité, pouvoir célébrer cette immensité, pouvoir s'émerveiller de l'immensité du monde. Et moi, j'aime bien avoir aussi un atlas, même si malheureusement, la vie moderne maintenant empêche de passer des heures sur un atlas, mais c'est vrai qu'il faudrait faire ça. Et puis, ce qu'elle dit, sur mille voix étaient en toi, celles des poètes, celles des romanciers, celles des conteurs. Voilà. Il aimait ça, il aimait la poésie. Il aimait aussi les histoires, les romans. Il aimait les contes et légendes. D'ailleurs, un de ses derniers livres paru aux éditions Privas, c'est les contes et légendes, donc d'ici là du Languedoc. Et j'avoue que c'est assez amusant. Mais quand j'avais 12 ans, c'est lui qui m'a donné le goût des contes et légendes. Et je me souviens, alors que j'habitais Montauban. J'allais à Saint-Cernin, devant la basilique Saint-Cernin, où il y avait là le marché, il y avait le dimanche, le marché, ce qu'on appelait les puces, hein, et il y avait des bouquinistes. Et là, c'est là que j'ai acheté mes premiers livres de contes et légendes que j'ai toujours, et que je lisais donc avec beaucoup de passion. Et c'était d'avoir écouté Michel Cozem, là, qui était étudiant, lui, à l'AG, qui m'en avait donné le goût. À 20 ans, ton besoin d'être, de faire, était à son apogée. Tu n'as eu de cesse de créer avec les autres une revue de poésie. La ténacité, l'opiniâtreté aussi étaient en toi. Octogénaire, tu poursuivais encore, en plus d'écrits étonnants, l'œuvre de ta jeunesse. Tu désirais que ton besoin de créer se propage, aide chacun à devenir ce qu'il est sans le savoir, sans oser le devenir. Tu as fait naître des générations de poètes. Voilà. Merci, Annie Brier, d'avoir écrit ce recueil et d'avoir écrit ça, parce que c'est le plus bel hommage, en définitive, que l'on peut rendre à Michel Cozem, hein, dans ce magnifique recueil que tu as écrit, Annie, Crépuscule de la joie, à 20 ans. Donc c'est vrai que le besoin d'être de Michel Cozem, était vraiment à son apogée. Hein, c'est à 20 ans que je l'ai vu, moi, quand je suis allé le voir dans les locaux de l'AG. Il faisait du syndicalisme étudiant, je crois qu'il était à l'UNEF, hein, à cette époque-là. L'AG, c'était l'Assemblée générale des étudiants de Toulouse. Et c'est là qu'il a créé Encre Vive, avec des moyens d'ailleurs du syndicalisme étudiant, hein. Et qu'il a créé, alors là, une revue Encre Vive. À l'époque, c'était vraiment une revue d'avant-garde, une revue véritablement, entre guillemets, révolutionnaire. Et pour un jeune comme moi j'avais 12 ans, c'était ce que j'attendais. c'était absolument ce que j'attendais, sortir de ça. J'avais la passion de la poésie. Je savais que cette passion, il fallait pas qu'elle m'emporte, mais que je devais vivre avec, trouver donc un équilibre pour qu'elle ne m'emporte pas, que je puisse avoir à côté quand même des ancrages qui me permettraient d'avoir une vie à peu près normale. Mais mon centre d'intérêt, il était là, il n'était que dans la lecture et des poètes, lire les poètes, savoir ce que les poètes disent, c'est-à-dire savoir quelle est la température du monde, ce qu'on peut dire du monde. Et c'est lui qui me l'a, le premier, qui me l'a révélé, voilà, avec cette revue Encre Vive. Et puis ses amis aussi, Michel Blonvilliers, celui qui signait Michel Blonvilliers de son vrai nom, Michel Druès, qui a disparu avant Michel Cosème. Voilà. Et il n'a cessé donc cette énergie, cet enthousiasme extraordinaire quand même qu'il avait à 20 ans. Hein. Il l'a transporté avec lui et il l'a converti en acte. Jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à son dernier souffle, d'ailleurs, elle le dit, hein, octogénaire, tu poursuivais encore, en plus d'écrits étonnants, hein, parce qu'il écrivait toujours, et c'est vrai que ses écrits, les derniers écrits, sont toujours étonnants, alors il poursuivait l'œuvre de ta jeunesse. En définitive, il n'avait jamais cessé, je dirais, cette œuvre de jeunesse, et ce qu'il écrivait, c'était toujours la poursuite de cette œuvre de jeunesse. Merci Annie Brié de décrire ces belles choses. Toi, en pleine course, arrêté comme un grand cerf, moi, érable aux feuilles de sang, perdant sa sève. Voilà. Très belle image, hein, on voit que Annie Brié, c'est vraiment aussi une poète authentique. Très belle image, d'abord l'image du cerf, le grand cerf arrêté, hein. Et puis elle, érable aux feuilles de sang, donc on voit bien cette couleur de rouge, ce rouge vermeil, perdant sa sève. Hein. Mais c'est en perdant cette sève, elle ne perd pas vraiment sa sève enivriée, parce que sinon elle ne pourrait pas écrire ça. Alors vous savez que Michel Cosème, c'était le poète des lieux, dont disais-je. Il avait d'ailleurs créé une collection qui existe toujours, puisque Encre Vive n'a pas cessé, donc se perpétue, avec Éric Chassefière. Et donc Encre Vive rend hommage aux lieux, puisqu'il a créé, Michel Cosème, cette collection lieux, qui a accueilli des dizaines, des centaines peut-être d'auteurs. Hein. C'est extraordinaire quand même tout ce travail, incroyable travail qu'il a fait. Et voilà ce qu'elle dit sur les lieux. Lieu sans toi, lieu désert. Le gouvernement du vide, à Fenoul, ta maison d'écriture, Fenoul, est une clairière, avait dit un ami, la clairière intérieure de toute une vie, la tienne, la mienne, ce lieu unique sur la terre auquel on appartient plus qu'il ne vous appartient. Voilà. Alors, le Fenoul, donc, c'est le lieu-dit, qui est pas loin d'ailleurs de là où vit Annie Brié, mais, et qui était la maison, je dirais, la maison d'été d'Annie et de Michel Cosème. C'est là qu'il a écrit beaucoup, beaucoup. Il a écrit beaucoup, à Fenoul, donc dans le Lot. Voilà. Et je ne sais pas qui a dit, de ses amis, qui a dit une clairière, que c'était une clairière, cette maison. Voilà. Cette maison, dans ce lieu, où elle dit, sur la terre auquel on appartient, plus qu'il ne vous appartient. Voilà. Ils appartenaient au Fenoul. Et maintenant, je crois qu'elle appartient à Iceps, là où elle est maintenant. Prononcer ce vocable l'hiver, lorsque nous étions loin de lui, faisait lever le rêve. C'était la promesse du silence, de l'épaisseur du temps, la promesse de respirer au rythme de la terre, celle de l'immensité verte, des prés, des collines couvertes de forêts, la promesse d'une existence multipliée, des grands ciels intarissables, le temps de l'écriture revenu. Les oiseaux, gardiens du lieu, allaient fêter notre retour. Nous allions retrouver le cheminement des sèves. Voilà. Elle parlait tout à l'heure de cette sève qu'elle perdait, moi érable aux feuilles de sang, disait-elle dans un poème précédent, perdant sa sève. Mais non, sa sève, on va la retrouver là. Nous allions retrouver le cheminement des sèves. Voilà. Hein? Le cheminement des sèves, c'est aussi le cheminement de la poésie, cette célébration du monde qui les unissait. En y brillait Michel Cozem, et c'est ça, c'est la sève qui chemine dans cette promesse d'une existence multipliée. Et on revient au fenoul ou à Iceps, ta maison d'écriture, désertée, t'enchantée, ma maison de paille aux lèvres et aux yeux de houx, quand le printemps est blanc comme la neige, tu as ta chanson de fontaine et les vieux pruneaux boivent dedans, les vieux pruniers boivent dedans. Voilà. Elle cite donc Michel Cozem. J'ai voulu qu'un forsythia, planté sur l'aire à blé, conserve là-bas ton souvenir. Il fleurira avec les pruniers et les cérémonies du printemps des poètes. Ainsi, te dresseras-tu, longtemps encore, dans une lumière de jonquille, près des biches et des chevreuils, de ta forêt, dont tu aimais les hurlements, les jours de grand vent. Ce matin, une brume épaisse, un refuge, une protection, est-ce toi? Est-ce la brume qui m'enlace? Une prison de bien-être, le souvenir de ta tendresse est un baume sur mes plaies. Voilà. Donc, il y a cette apparition de l'homme aimé, du poète aimé, qui arrive quand même, et qui va redonner souffle. Donc, Annie Brié, puisqu'elle dit que cette brume épaisse, c'est peut-être un refuge, une protection. Et même, elle va dire, c'est une prison de bien-être, ce souvenir de ta tendresse. Voilà. Le souvenir, c'était notre ami Joël Vernet qui disait que la nostalgie est aussi un avenir. Et c'est dans ce sens que vraiment, là, alors on voit que vraiment les poètes, combien ils se comprennent, combien ils ont raison de dire ce qu'ils disent. Le souvenir de ta tendresse est un baume sous mes plaies. Et donc c'est ce que dit aussi l'intuition de Joël Vernet, quand il dit que la nostalgie va pouvoir le remplir aussi de bonheur. Vous voyez, hein, la nostalgie donc de cette perte, mais le souvenir, eh bien, ça va être aussi quelque chose qui va l'aider à vivre. Et puis, toujours cette tendresse qui s'exprime aussi par les animaux que l'on a. Et là, c'est le chat, la chatte. La chatte t'attend tous les soirs. Elle pousse la porte de ton bureau, puis revient songeuse. Cette nuit, elle a dormi sur ton fauteuil. tout au long des jours, elle cherche une place sur mes genoux. Elle attend des caresses, des poignées de paroles douces, même quand ma voix n'est plus qu'un matin de pluie. Bon. C'est un poème qui est d'une tendresse infinie. On voit ce chat qui était enveloppé d'affection des deux, et ce chat qui est en définitive cette chatte, puisque c'est une chatte, qui cherche, bien sûr, Michel Cozem, et qui va, qui ne le trouve pas, elle revient songeuse, donc de son bureau, il n'est pas là. Et elle va dormir sur son fauteuil. Elle aussi, elle va chercher dans le fauteuil, dans l'odeur du fauteuil, dans ce que ce fauteuil représentait. Elle va chercher le souvenir de la tendresse de Michel Cozem, et la chatte, elle aussi, elle éprouve ce que la nostalgie peut avoir d'avenir et peut comporter aussi de bonheur. Voilà, un très très beau poème donc d'Enivrier, un poème qui me parle, parce que je sais aussi ce que c'est que les chats, et que les chats peuvent effectivement avoir aussi ce comportement d'une grande tendresse, et je dirais d'une grande humanité, et souvent d'ailleurs plus que les gens. Les gens connus sont méconnaissables, autres. Ils ont perdu leur poids de vie, vivent ailleurs, dans un monde différent du mien. Ce bruit de source de notre vie, inaudible aux autres, inaudible aux autres. Bon, terrible aussi. Ce court poème, hein, d'une vérité totale, les gens connus sont méconnaissables. Ils ont perdu leur poids de vie. Bah oui, bien souvent, c'est le cas. C'est le cas. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, il y a des poètes comme a été Michel Cozem, comme a été Alain Lacouchy, comme a été Charles Julliez, malgré tout, puisque, bien que connu, il n'était pas, lui, méconnaissable, parce qu'il était resté ce qu'il était. Joël Vernet. Voilà. Ce bruit de source de leur vie, hein, et qui est inaudible aux autres. Muette, je t'appelle, je murmure ton nom. Qu'ai-je fait de tant de jours de solitude depuis ton départ? Je porte cette douleur depuis 9 mois, pour quel enfantement? Vivre, être sans urgence. Vivre ou mourir est devenu sans importance. Voilà. Encore un poème terrible, parce que il y a là tout le désespoir que peut entraîner la perte de ce que l'on appelle, pour employer un cliché, un être cher. Là, c'est un être cher parmi les êtres chers, c'est un être chéri. Et quel est le prix de la douleur? Qu'est-ce que cette douleur de l'absence, qu'est-ce que cela peut nous apporter? Qu'est-ce que l'on peut attendre d'une telle souffrance? Puisque maintenant, sans lui, sans Michel, Annie, ben, il lui semble que vivre est sans urgence. Mais heureusement, il reste l'écriture. Et même pour dire ça, même pour dire les choses les plus extraordinaires et les plus désespérées aussi, l'écriture permet cette création, et qu'on le veuille ou non, l'écriture va apporter, par cette catharsis qu'elle est, c'est l'écriture, va apporter un fragment de consolation. Dame à âme, je te parle continuellement, je te montre la première jonquille, le printemps nouveau. Je regarde, les yeux brouillés, les arbres devant la fenêtre de ton bureau, l'olivier et le palmier dattier, tu les aimais, ils étaient arbres de ton enfance, caressés par le vent. Aujourd'hui, notre château est défait, la vie est morte. Voilà, encore un hommage à Michel. Voilà, c'est-à-dire que on voit quand même que, puisque elle dit « je te parle continuellement », donc est-il mort vraiment pour elle? Est-il mort? Elle dit « oui, la vie est morte, oui, oui, mais la vie est morte, mais elle crée quand même toujours, puisque le souvenir, puisque le fait de pouvoir parler, elle lui parle. Donc, je crois qu'on ne meurt qu'à partir du moment où on ne pense plus à vous, mais tant que quelqu'un pense à vous, vous parle, ben, vous êtes, c'est une forme de vie. Certes, ce n'est pas une vie tangible, mais c'est une vie spirituelle. Sèche donc tes larmes, modère tes plaintes, tes gémissements, femme habillée de cendres. Ne connais-tu pas ta chance d'avoir vécu tant d'années près de cette lampe de vie allumée jour et nuit, heureuse jusqu'à la veille de son départ définitif? Tu es parti avec élégance, comme tu as vécu. Voilà. Alors il y a le sursaut. Ce sursaut en disant, mais non, il faut pas pleurer, puisque j'ai eu la chance de vivre ces si longues années, donc auprès de Michel. J'ai eu la chance de vivre donc près de cette lampe de vie. Qu'est-ce que c'est la lampe de vie? C'est la lumière qui nous éclaire, c'est ce qui nous permet justement de voir le monde, d'être dans cette lumière, et elle était dans la lumière avec Michel Cozet. Et puis elle dit une chose qui est vraie, et là je voudrais insister, parce que des poètes qui ont l'élégance en eux, il y en a, Joël Vernet, de la semaine dernière, par exemple, voilà, un poète qui a beaucoup d'élégance en lui, Charles Julliet avait cette élégance-là, Christian Bobin avait cette élégance, Alain Lacouchy avait cette élégance, et donc ce sont des gens qui sont partis avec élégance comme ils ont vécu, exactement comme Cozet, quelle élégance, dans tout. Et c'est comme ça aussi qu'il est parti. Il est parti comme ça, avec cette élégance, cette discrétion, qui demande beaucoup de courage. Nous avions élu domicile, ces deux derniers hivers, dans une demeure nouvelle, pareille à des jeunes gens qui s'installent pour une vie très longue. Nous avions leur allégresse. Nous partions très souvent le matin, dans le givre parfois, dans le soleil aussi, par de petites routes désertes, vers nos lieux de prédilection. Nous savions nous réjouir de paysages toujours pareils, toujours nouveaux. Nous nous récrions chaque fois, en même temps, comme d'une seule voix, telle une troupe d'enfants, quand apparaissait la blanche, l'étonnante falaise. Je, dont ni l'un ni l'autre n'était dupe, je de pur bonheur. Alors ce domicile dont elle parle, c'est Iceps, donc près de Figeac, toujours. Où ils ont aménagé, évidemment, dans cette maison, une belle maison, hein. Et quand on aménage dans une belle maison qui vous plaît, qui est agréable, qui est confortable, où il a les paysages à voir facilement, un bureau qui est un bureau dans lequel il se plaît, et bien entendu, il y a là une nouvelle jeunesse. Et on les imagine partant l'un et l'autre, donc dans cet élan que leur donne cette nouvelle jeunesse, d'avoir trouvé cette maison qu'il cherchait en définitive. Parce que le fenouil, c'était bien, mais c'était pas confortable, tandis que là, ben, ils peuvent y passer l'hiver, et c'est une maison confortable. On imagine quand même leur joie. Elle en parle, hein, nous avions leur allégresse des jeunes gens. Hein. Et là, on voit qu'ils aiment aussi partir comme ça, marcher. Et c'est terrible d'ailleurs parce que c'est cet élan qu'ils avaient vers de partir, d'aller voir les paysages, d'être vraiment de plein pied, de communier avec la nature, l'un et l'autre. Ils avaient ce besoin, un besoin irrépressible, hein, chez l'un comme chez l'autre, de se confondre avec la nature. Eh bien, quand ils habitaient Colomiers, ils sont partis comme ça aussi pour aller vagabonder dans la nature. Et en revenant, leur maison, c'est dans la banlieue de Colomiers, c'est dans la banlieue de Toulouse, hein, leur maison avait été cambriolée, ça a été un désastre. Et, voilà, ils ont abandonné d'ailleurs. Et cette maison de Colomiers, ils l'ont abandonnée donc pour aller à Iceps. Donc, la matinée se terminait dans un restaurant qui semblait nous attendre là-bas, dans ce lieu d'éternité où est encore visible le passage des hommes préhistoriques dans la pierre des origines. Le lendemain, ta mort, ma mort, m'endormir une nuit dans la neige d'un plumage de cygne. Alors oui, souvenir de restaurant avec Michel, oui. Pas assez d'ailleurs, pas assez. On le regrette ensuite. Alors quand elle dit ta mort, ma mort, je veux dire, les deux pour elle, c'est indissociable. Hein. L'un entraîne l'autre. Le jour d'hiver se lève. Les lueurs rose du soleil lisse le ciel derrière les troncs noirs du petit bois de chêne. Une bande gris-bleu au-dessus. Goûter l'éclosion du jour, les prodiges du soleil levant. Dehors commence la grande cérémonie de l'univers. À l'horizon, une longue ligne rouge étincelante. Le soleil se prépare très lentement à monter derrière la colline. Dehors, monte l'orange de feu dans les branches des chênes. Matin du monde, baigné de poésie par les oiseaux. Leur écriture dans le ciel, leur silence l'hiver, splendeur, chaque jour renouvelé, éphémère, éternel. Voilà. Donc ce recueil d'un ébrier, crépuscule de la joie, se termine par ce poème, qui est un poème d'espérance. Qui est un poème d'espérance parce que le monde, lui, il est toujours là et il est toujours à célébrer. Il restera toujours à célébrer le monde. Et le monde, c'est toujours un émerveillement. Hein, comme elle dit, le jour d'hiver se lève, une bande gris-bleue au-dessus. Goûter l'éclosion du jour, goûter. Il y a là, quand on goûte, il y a le fait de la curiosité, goûter, mais il y a aussi le fait du plaisir. Donc le monde sera là toujours, les prodiges du soleil levant, eh bien ces prodiges-là, ils nous prodigueront toujours du bonheur, ce bonheur de, justement, d'être incendié par la beauté du monde, par l'aube qui se lève et qu'elle décrit très bien. Hein. Dehors monte l'orange de feu dans les branches des chênes. Alors voilà, cette nature qui nous dépasse, cette nature, elle va la célébrer encore, en y briller. Et c'est cette nature-là, peut-être, qui va lui permettre, non pas de surmonter sa tristesse, non pas de surmonter quand même ce grand malheur qui est la perte de Michel Cosem, mais qui va lui permettre tout simplement de continuer à vivre parce que il y aura cette splendeur chaque jour renouvelée. Chaque jour, la nature, le soleil qui se lève, cette nature à célébrer, le monde en définitive à célébrer, hein, cette beauté donc du monde, cette beauté bien que éphémère, cette beauté éphémère, nous dit-elle, elle est aussi éternelle. Voilà. Donc un très beau hommage qu'elle rend enivrié à Michel Cosem, avec ce recueil « Crépuscule de la joie » paru aux éditions Encre Vive, qui constitue le 434e numéro d'Encre Vive. Encre Vive que vous pouvez vous procurer soit en écrivant par mail à encre. Alors encre au pluriel hein, et en minuscule encre. Vive, toujours au plus, en minuscule et au pluriel, encre.vive34, hein, après vive, encre.vive34, @gmail.com, ou bien par courrier à Eric Chassefière, CHA2SEFIE, accent grave RE, Éric Chassefière, 232 avenue du Maréchal Juin, 34-110 à Frontignan. Et vous pouvez vous procurer ce numéro pour la somme de 6,60 € plus le frais de port, je ne sais plus combien maintenant, mettons 2 €. Et puis surtout, vous abonner à cette revue Encre Vive qui continue, l'abonnement, pour 12 volumes de cette revue, pour un an, et de 40 €, toujours aux mêmes adresses. Voilà. Vous trouverez ça sur notre site, lespoètes.site, où vous pouvez retrouver cette émission, lespoètes.site, qui est tenue par notre maître génial, Claude Brotec. lespoètes.site, vous retrouverez toutes nos émissions. Ainsi s'achève notre émission de cette semaine. Claude et moi, nous vous souhaitons une excellente semaine à l'écoute de Radio Occitanie et nous vous disons à la semaine prochaine. Adiciats.